Une vie, une œuvre. Bonjour à tous, il est l'heure de nous retrouver pour écouter le documentaire de Michel Pomared et Jean-Philippe Navarre sur Chinua Achebe. Chinua Achebe est né le 16 novembre 1930 à Ojidi, dans l'est du Nigeria, et mort à 82 ans le 21 mars 2013 à Boston. Il est l'écrivain de l'Afrique subsaharienne le plus célèbre dans le monde anglo-saxon, étudié dans toutes les universités. En sa compagnie, les murs de la prison tombaient, a commenté à son sujet Nelson Mandela. Dénonciateur de la corruption dans son pays, auteur d'une œuvre immense qui se déploie du roman à l'essai, des nouvelles à la poésie. Son premier roman, en 1958, Le monde s'effondre, a été traduit en une cinquantaine de langues. Un chef-d'œuvre qui a presque éclipsé la totalité de son œuvre qui reste encore à traduire et à découvrir.
Une vie, une œuvre. Chinua Achebe, éclaireur de la littérature africaine. Michel Pomared, Jean-Philippe Navarre.
Les sauterelles arrivent, répétit-on joyeusement de tous côtés. Et les hommes, les femmes, les enfants abandonnaient leurs travaux ou leurs jeux pour courir vers les champs et profiter de ce spectacle exceptionnel. Les sauterelles ne s'étaient pas montrées depuis de nombreuses années et seuls les vieux les avaient déjà vues. On vit d'abord arriver un essaim plutôt modeste. L'avant-garde, chargé de reconnaître les lieux.
Les lieux, ce sont les paysages du Nigeria. Monstre géographique d'1 million de kilomètres carrés et qui compte près de 190 millions d'habitants, réputé pour sa musique et son cinéma, le pays est aussi connu aujourd'hui pour ses écrivains traduits presque sous toutes les latitudes. Des écrivains qui doivent beaucoup à leur père fondateur, Chinua Achebe, qui inscrit dès 1958 le pays sur la carte de la littérature mondiale. 1958, c'est la date de parution de son roman culte « Tout s'effondre », un roman dans lequel l'Afrique est enfin racontée par l'un des leurs, dans le moindre détail.
Puis apparut à l'horizon une masse sombre et lente, comme un rideau de nuages noirs, dont on n'apercevait pas les contours et qui avançait vers le village. La moitié du ciel fut bientôt recouverte et la masse solide fut transpercée de minuscules yeux de lumière, comme une poussière d'étoiles. C'était un spectacle extraordinaire de puissance et de beauté.
C'est le premier livre que j'ai pu lire tout seul, à haute voix. Ça a été comme une rencontre amoureuse, une vraie alchimie.
Gaston Paul Effat, écrivain et philosophe.
J'étais un enfant dyslexique, mais passionné par la lecture. Et tout enfant déjà, je pense 7, 8, 9 ou 10 ans, on me lisait, puisque j'étais élevé par des sœurs du Saint-Esprit, elles me lisaient Don Quichotte, Madame Bovary, L'enfant de Jules Vallès. Donc, j'ai eu la chance d'entrer en littérature, comme on dit, par l'oralisation, par une écoute incarné, par une lecture bien incarnée. C'est au petit séminaire que j'ai découvert la littérature africaine et plus particulièrement Chinua Achebe.
Chinua Achebe, moi la première fois que j'ai entendu ce mot, je sais où c'était. C'était pas il y a si longtemps que ça, c'était en 2011 à Durban, en Afrique du Sud.
L'auteur Marie Dariussec.
Où j'étais invitée à un festival de littérature, qui est très bon d'ailleurs. Chinua Achebe. Je n'entendais pas les sons. Et chinois, je me suis dit bêtement qu'il était chinois. Enfin, j'essayais de comprendre les phonèmes, les sons qui m'arrivaient aux oreilles. Et tous les intellectuels africains qui étaient autour de moi, c'était un regroupement de gens de toute nationalité et puis aussi de la diaspora africaine, disaient ce nom avec l'aisance avec laquelle nous disons Sartre ou Albert Camus. J'ai compris par la seule intonation de leur voix à quel point cet auteur était d'une importance évidente pour eux. Et je me suis sentie analphabète, comme très souvent dans les cercles intellectuels africains où je peux me retrouver. Et je l'ai tout de suite commandé. Alors j'ai lu évidemment Things Fall Apart, puisque c'était le livre qui était mis en avant d'emblée sur Internet, déjà à l'époque. Et j'ai compris que j'étais restée dans la méconnaissance absolue d'un chef-d'œuvre, d'un livre très très important.
Je me suis reconnue dans ce texte de Chinua Achebe,
l'enseignant Vivien Yombé.
Et du coup, un jour, je me suis dit, comme je faisais des études de langue et de littérature anglaise et américaine, donc je me suis jeté dedans. J'ai dit, un jour, je ferai une thèse sur Chinua Achebe. Donc j'ai gardé l'exemplaire. C'est un exemplaire qui est maintenant introuvable. Hein. L'exemplaire de traduit aux éditions Présence africaine, il est introuvable. Donc je l'ai toujours. Je suis venu avec en France et je le porte toujours.
L'intrigue est simple. Et le héros, c'est Okonkwo. Et j'étais émerveillé par cette construction narratique en trois séquences. Dans la première, vous avez toute l'apogée de la société Igbo. On est au Nigeria. Et avec cette société, on a un guerrier, Okonkwo, qui est un homme courageux, un homme intrépide, qui terrasse tout le monde. C'est le lutteur, c'est le bagarreur, c'est le lion. Dans la deuxième séquence, Okonkwo commet un meurtre. Il va être exilé de son pays, de son village. Il est exilé et pendant son exil, la colonisation se met en place. Il y a l'évangélisation et la première victime, c'est son fils aîné. C'est la division du peuple entre ceux qui adhèrent à cette nouvelle vision du monde et les conservateurs. Et dans la troisième séquence, Okonkwo est de retour. Il trouve un monde dévasté. Il n'y a plus pierre sur pierre. Les gens sont en crise, c'est la tension absolue. Et comme c'est un nostalgique, et tout ce qui arrive au nostalgique, vous savez que la nostalgie, c'est cette douleur due à un retour qui tarde à se faire. Il est resté figé vers le passé.
Françoise Hugo Chukwu, votre patronyme est nigérian.
Oui.
Ça veut dire quoi?
C'est le nom de mon mari, le nom de famille. Hugo, c'est le premier sens du mot, c'est l'aigle royal. Et Chukwu, et deuxième sens, c'est la gloire, parce que c'est beau l'aigle. Et Chukwu, c'est le nom de Dieu, Dieu dans sa puissance. Donc Hugo Chukwu, c'est la gloire de Dieu.
Donc on pourrait dire par alliance, vous êtes Igbo comme Chinua Achebe.
Voilà.
Chinua Achebe, lui, il est né en 1930 dans quel village?
À Ogidi. Ça, c'est la ville. Parce que en pays Igbo, une ville, il y a des villes comme Onitsha ou Enugu qui, à l'occidental, se comprennent comme des villes parce qu'elles ont été construites plus ou moins par les étrangers. Mais en fait, une ville en pays Igbo, c'est une collection de villages. Donc, quand on dit Ogidi, c'est la ville. Mais le village, en fait, je ne sais pas. Donc, il est dans un des villages. Il est né dans un des villages d'Ogidi.
Et vous prononciez le mot Onitsha. Onitsha, c'est aussi le titre du roman de Jean-Marie Le Clézio, qui en 1991 part, on pourrait dire, sur les traces de son père, administrateur colonial, dans cette ville.
J'ai lu Le Clézio, j'aime beaucoup. Oui.
Donc la littérature française, Le Clézio et celle du pays Igbo, Chinua Achebe, se sont rencontrées dans cette ville qui est aussi un carrefour.
Tout à fait, oui. C'est une immense ville. Et c'est un port, en fait, fluvial. Et c'est aussi là que les premiers missionnaires français sont arrivés, à la fin des années 1880. Donc, ils sont arrivés par le fleuve.
Ogidi, c'est une ville du sud-est du Nigeria, oui, en pays Igbo. Et je voudrais qu'on écoute ce que dit Chinua Achebe dans son recueil « L'éducation d'un enfant protégé par la couronne », où il définit, on va dire, l'essence même de ce que c'est qu'être un Igbo.
L'entre-deux n'est ni l'origine des choses, ni la dernière des choses. L'entre-deux a conscience d'un avenir vers lequel aller et d'un passé dans lequel retomber. C'est le lieu du doute et de l'indécision, de la suspension de l'incrédulité, du faire-semblant, de l'espièglerie, de l'imprévisible, de l'ironie. En cas de conflit entre deux personnes, les Igbos ne cherchent pas d'abord à savoir qui a tort et qui a raison, mais à rétablir au plus vite l'harmonie. À Ogidi, où je suis né, nous avons un dicton. Le jugement d'Ogidi ne va pas contre l'une des parties. Nous sommes des gestionnaires sociaux plutôt que des juristes. Nous ne travaillons pas sur une table bien rangée, mais dans un atelier où règne le désordre.
Pour moi, il y a quelque chose qui est très important chez les Igbos, c'est la communauté. On fait partie de la communauté avant d'être un individu. Et en fait, l'individu n'est jamais considéré en tant qu'individu. On est pris dans un réseau communautaire Ce qui fait que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on, notre comportement, nos paroles impliquent la communauté. Et je pense que tous les romans d'Achebe représentent bien ça. Ça, c'est une chose. Je pense d'autre part l'harmonie, mais aussi le désordre dans le sens, et ça c'est toujours vrai chez les Igbos comme Gaulois du Nigeria. Vous connaissez l'histoire des Gaulois. Donc les Gaulois étaient toujours dans leur petit coin, chacun. Et quand ils ont été envahis par les Romains, ils ont eu des problèmes parce qu'ils n'arrivaient pas à s'unir. Et les Igbos, c'est comme ça. C'est des gens qui, au contraire de tous les autres du Nigeria, qui ont été facilement dominés par les Anglais à l'époque de la colonisation, les Anglais, les Britanniques ont détesté les Igbos pour cette raison. C'est qu'il n'y avait pas de grand chef. Il y avait une autonomie énorme, pratiquement une indépendance des villages. Donc, c'est ce qu'on voit chez Achebe.
L'arrivée des missionnaires avait causé une émotion considérable au village de Mbanta. Ils étaient 6, dont un blanc. Hommes et femmes, tout le monde sortit pour voir le blanc. C'était l'époque de l'année où on restait chez soi. La récolte était passée. Quand les gens furent tous rassemblés, le blanc leur parla. Il avait un interprète, un Igbo, bien que son dialecte soit différent et désagréable aux oreilles de Mbanta. Beaucoup se moquaient de ce dialecte et de l'usage bizarre que cet homme faisait des mots. Au lieu, par exemple, de dire « moi-même », il disait toujours « mes fesses ». Mais l'homme en imposait par sa présence et tous les membres du clan l'écoutaient. Il leur déclara qu'il était l'un d'entre eux, comme il pouvait le voir à sa couleur et à son langage. Le blanc aussi était leur frère, puisqu'ils étaient tous les fils de Dieu. Et de leur parler de ce nouveau Dieu, le créateur du monde et de tous les hommes et de toutes les femmes. Il leur dit qu'ils avaient jusqu'ici adoré de faux dieux, des dieux de bois et de pierre. Un profond murmure parcourut la foule à ces mots. Il leur dit que le vrai Dieu vivait au ciel et que tous les hommes, quand ils mourraient, se présentaient devant lui pour être jugés.
À cette époque, les missionnaires essayaient d'être très radicaux, étaient vraiment radicaux. Et donc, par exemple, ils interdisaient à leurs ouailles d'aller assister aux tournois de danse, aux présentations des masques, etc., toutes les activités de loisirs. Parce qu'en fait, la religion traditionnelle, c'est un peu comme le christianisme bien compris, c'est-à-dire que ça englobe toute la vie.
Un vieil homme avait une question à poser. C'est qui, au juste, ton Dieu ? La déesse de la terre, le Dieu du ciel, Amadiora, le tonnerre ou quoi ? L'interprète dit quelques mots au blanc et la réponse fut immédiate. Tous les dieux que tu viens de nommer ne sont absolument pas des dieux. Ce sont des dieux trompeurs qui vous poussent à tuer vos semblables et des enfants innocents. Il n'y a qu'un vrai Dieu. Il règne sur la terre, comme au ciel, sur vous, sur moi et sur nous tous. Si nous abandonnons nos dieux pour suivre le tien, demanda un autre homme, qui nous protégera de la colère de ceux que nous aurons abandonnés et de nos ancêtres ?
Donc là, l'humour de Chinua Achebe, donc, mais la tornade n'est pas passée à Ogidi, mais ses propres parents se sont convertis au christianisme.
Oui, son père était catéchiste. Et il raconte ailleurs que son père suivait les instructions de l'époque. Et donc, Achebe, ses parents, voulaient absolument opérer une séparation entre eux et les païens. Mais lui, en fait, il aimait beaucoup les païens parce qu'ils étaient joyeux. Et donc, il s'échappait d'autant plus facilement qu'en pays Igbo, les enfants appartiennent à la communauté. Donc, ils ne sont pas restreints dans le cadre de la maisonnée. Ils peuvent aller partout et ils sont toujours reconnus comme les enfants. Et donc, bien sûr, c'est vrai. Mais ce qu'il dit, par exemple, des missionnaires, c'est vrai que ces missionnaires, ils étaient peut-être d'abord, les gens étaient méfiants. Et puis, les gens étaient intéressés et les missionnaires français ont travaillé sur la langue Ils étudiaient l'ibo, au contraire des missionnaires britanniques et irlandais qui sont venus par la suite. Ils étudiaient la langue ibo, ils essayaient de communiquer avec les gens, ils notaient des contes, des proverbes.
Certaines personnes qui lisent les romans comme des manuels d'histoire me demandent parfois pourquoi, dans tout s'effondre, mon peuple se convertit aussi facilement au christianisme. Facilement. Je peux vous dire que cela n'a pas été facile, ni dans l'histoire, ni dans la fiction. Mais un roman ne peut pas reproduire la durée historique. Celle-ci subit une forte compression. Le christianisme, en réalité, n'est pas passé sur le pays Ibo comme un feu de broussailles. Un exemple suffira. Les premiers missionnaires sont arrivés dans la ville d'Onitsha, sur les rives du Niger, en 1857. Depuis cette tête de pont, ils ont fini par atteindre ma propre ville d'Ogidi en 1892. Moins de 12 kilomètres séparent Onitsha d'Ogidi. 12 kilomètres en 35 ans, soit un peu plus d'un kilomètre et demi par an.
Donc, on est chrétien le dimanche, puis le lundi, mardi, mercredi, s'il y a un problème, on retourne au devin. Il y a donc Tchoukou en haut, qui n'a pas de culte lui-même. Et puis, il y a des divinités intermédiaires auxquelles les gens s'adressent. Et puis, il y a le culte des manes, les dieux familiaux.
Oui. Le père donc, de Chinua Achebe s'appelait Okafor Achebe. Donc, il participe à la création de la première église chrétienne dans la ville d'Ogidi. Et comment est-ce qu'il appelle son fils ?
C'était d'abord Albert, parce que si vous regardez les noms des auteurs nigérians nés sous la colonisation, ils avaient tous un prénom anglais, premier, qu'ils ont souvent abandonné par la suite, comme Chinua Achebe, qui a abandonné son Albert. Et puis Chinua Lomogu, c'est-à-dire que Dieu lutte pour moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il était chrétien.
Au début, j'ai pensé que le christianisme était une bonne chose pour nous.
Chinua Achebe, en 2008.
Puis j'ai senti que l'histoire qu'on m'avait racontée à propos de cette religion n'était pas complète. Comme on avait caché des aspects. Car je n'ai pas vu chez les chrétiens le moindre effort pour comprendre ce qui se cachait derrière le culte de mon ethnie, les Ibo. Un culte rapidement réduit à l'adoration de certaines pierres et donc qui n'avait pas de valeur en regard du christianisme.
Très très vite, les Ibo ont beaucoup cherché à intégrer l'école pour leurs enfants, voyant l'école comme un tremplin vers un plus dans la vie. Oui. Et donc, pour adopter l'école, ils ont aussi adopté la religion, mais cette religion-là, elle est restée très en surface.
Chinua Achebe va à l'école, aime ça. Quel est son surnom ?
Ah, j'ai oublié.
Dictionnaire.
Voilà.
On l'appelle dictionnaire.
Oui.
Mais de quoi il se nourrit, ce dictionnaire ? Il se nourrit de la littérature anglophone, les Conrad, les Hemingway et les autres.
Oui, ça c'était par force. Mais il n'a pas apprécié. Je pense que c'est la lecture de Conrad et des autres qui l'a forcé, qui l'a poussé vraiment à écrire pour répondre à cette vue incorrecte de l'Afrique.
Une vue incorrecte de l'Afrique, comme chez l'écrivain irlandais Joyce Carey et son roman Mr. Johnson.
Johnson n'est pas seulement étranger par l'accent, mais aussi par la couleur. Il est aussi noir que le charbon, presque un pur négro, avec un nez court et des lèvres épaisses et douces. Il est jeune, il doit avoir 17 ans, et semble mal dégrossi. Son cou, ses jambes et ses bras sont beaucoup trop longs et trop fins pour son corps, aussi rachitique qu'un lapin écorché. On dirait un garçon en vrac qui, une fois assis, a les genoux qui lui remontent jusqu'aux oreilles.
Lorsque Achebe était étudiant,
Célestin Bagouidi, professeur de littérature anglophone au Bénin.
Il devait aussi, entre autres romans, étudier un ouvrage d'un Européen Joyce Carey, qui a publié le roman intitulé Mr. Johnson, Monsieur Johnson.
Donc ça, c'était 1939.
En 1939, Achebe avait comme professeur de littérature un Anglais. Et puis, dans le dit ouvrage, Joyce Carey présentait les Africains comme des gens sans culture, des gens qui mangent la chair humaine, présentant aussi l'Africain comme un enfant incapable de réfléchir. Le jeune Achebe étudiant était révolté de lire tout ça de l'Afrique.
Voilà de l'écriture empoisonnée, en parfait accord avec une vision traditionnelle de l'Afrique fondée sur les principes de la traite des esclaves. Une tradition qui offre d'infinies variations sur le problème de l'éducation pour l'Afrique. On montrera, par exemple, un Africain très instruit qui jette son vernis d'éducation en même temps que son blazer d'Oxford quand le tam-tam se fait entendre. Moralité, Afrique et éducation ne vont pas ensemble. Ou l'Africain retourne toujours à l'état primitif. Et quel est cet état primitif ? Quelque chose de sombre et d'inquiétant et de différent. Et au cœur de tous les problèmes qu'a eu l'Europe dans sa perception de l'Afrique, se trouve la simple question de l'humanité des Africains. Sont-ils ou ne sont-ils pas comme nous ?
Il dit « Tant que les lions n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. »
Oui, c'est une citation très connue. Pourquoi il a été... son premier roman a eu tant de succès, a été si traduit, c'est que c'était la première fois, il y avait eu d'autres romans précédemment. Bon, il y avait L'ivrogne dans la brousse de Tutuola en 52, L'enfant noir de Camaralais en 53, People of the City qui n'a jamais été traduit, de Quincy en 54, donc Quincy était Igbo, mais c'était la première fois, People of the City c'était sur la ville. Mais c'était la première fois quand Achebe a écrit « Things Fall Apart » que c'était le point de vue Igbo et c'était un point de vue du traditionnel, hein, de l'intérieur, pas de la ville. Parce qu'à cette époque-là, les villes du genre de celles décrites par Equancy, c'était des villes modernes. Donc c'était le début du modernisme, tandis que Achebe a vraiment présenté le cœur du pays Igbo. Et ça, c'était la première fois. Également, le fait qu'il ait choisi cette langue, ça, c'était une nouveauté.
En fait, Achebe a fait ce que Lumumba a fait, c'est-à-dire que Patrice Lumumba voulait que l'Afrique prenne en main sa propre histoire. Et Chinua Achebe a dit presque la même phrase concernant les fictions. Africa's got to tell its own story. Il faut que les Africains racontent leur propre histoire.
Il a dit, bon, mais puisque les thèses qu'on nous présente jusqu'à présent dans les années 50 étaient des non-Africains, des Européens, des missionnaires si vous voulez, il faudrait que lui-même, en tant qu'Africain, essaye de raconter, de décrire ce qu'est l'Afrique et les Africains. Il a alors décidé d'aller au village, faire des enquêtes pour montrer à la face du monde ce qu'est l'Afrique, les Africains, la description de l'Africain, la valeur de l'Africain, d'où Things Fall Apart, qu'il a publié en 58.
En 2008, 50 ans après la publication donc de ce roman qui devient une pierre angulaire de la littérature anglophone et après de la littérature, on va dire, africaine, voilà ce que disait Chinua Achebe donc à la télévision américaine.
Je savais qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait que je définisse ma place dans le monde en rédigeant une histoire. Une histoire à propos de mes origines et de mon peuple. Je connaissais l'histoire des autres, ayant reçu une éducation dans une école britannique. Et j'étais familier donc des récits et des événements d'autres populations que la mienne. Mais j'ai ressenti un manque par rapport à mon histoire. C'est comme s'il y avait un trou sur l'étagère des livres, comme si on en avait enlevé certains.
of change.
Et j'ai voulu, en écrivant ce livre, saisir ce bouleversement quand une culture entre en contact, en conflit et en conversation avec une autre culture. Et là, il allait se passer quelque chose.
Il était nourri de bien d'autres choses, en particulier de toute l'oralité. En pays Igbo, on grandit avec les proverbes, les enfants les apprennent, et petit à petit, ils les pratiquent, et plus vous devenez vieux, plus vous vous approchez des proverbes, et il peut y avoir toute une discussion dans un village à coups de proverbes. Donc c'est très important, et pour lui, on retrouve dans ses romans des proverbes, des contes, et toute une oralité, en particulier aussi la façon de parler. Parce que le discours en pays Igbo est très important. C'est la priorité à la parole.
Il dit « Les proverbes sont l'huile de palme qui fait passer les mots avec les idées. »
Et bien sûr, oui. C'est quand on mange les mots avec le proverbe. Et c'est comparé au foufou, donc à la boule d'igname ou de manioc. Et les proverbes, c'est la sauce.
Chébé a une langue, une écriture, j'allais dire, oralisée. Apparemment simple, comme tout le monde rêve d'en écrire. Le plus simple et le plus pur.
Gaston-Paul Effa.
Il se fait tour à tour griot, chantre de la terre. Il donne terre même, il donne corps à cette langue. Et ce qui m'a frappé, petit enfant dyslexique, c'est aussi cette oralisation par laquelle je suis entré dans les œuvres. Et au concours va incarner aussi ce passéisme. C'est un homme du passé. C'est cet homme qui est à la fois le repère et ce qu'il ne faut pas voir. Vous avez vu le travail des dialogues qui donnent chair au personnage, qui nourrissent notre imaginaire, qui donnent même à voir, j'allais dire à voir, se dérouler les choses sous nos yeux avec une grande simplicité, beaucoup de métaphores. Si on peut parler comme des profs de français, c'est l'hypotypose. Beaucoup de métaphores qui donnent à voir ce monde qui est animé, qui est concret, qui est présentifié. Tout écrivain rêverait d'être achevé. Et je pense aussi, si j'écris aujourd'hui, c'est parce que j'ai gardé à l'oreille cette simplicité, cette musique et aussi cette force des images qui caractérise Achebe.
C'est une langue tout à fait descriptive, très très simple en fait, celle de Chinua Achebe.
Oui, et c'est justement ce qui l'oppose à Soyinka.
Wole Soyinka, donc oui, le futur prix Nobel.
Oui, et Wole Soyinka a eu le prix Nobel qu'Achebe n'a jamais eu. Mais je pense que si on avait... je n'ai rien contre Soyinka, c'est... Chacun a sa personnalité, mais je pense que si on avait interrogé, si ça s'était passé suite à un référendum des lecteurs, on aurait choisi probablement Achebe. Ce qui frappe dans sa façon d'écrire, c'est qu'il écrit une langue très limpide, très simple. Il n'aime pas les grands mots. C'est en cela d'ailleurs que sa langue, son anglais, est vraiment une traduction... pour moi, littéral de l'Igbo, parce que moi j'ai appris l'Igbo, et ce qui me passionne dans cette langue, c'est que c'est une langue qu'on touche, qui est comme de la terre, hein, où on touche, on sent, c'est très sensuel. Alors que Soyinka a été très influencé par d'autres langues et cultures, en particulier le grec, le latin, il est beaucoup plus éthéré, beaucoup plus théorique, alors qu'Achebe est toujours resté très terre à terre. Et ça représente vraiment la langue Igbo et la culture Igbo.
C'est un chant nu. Vous entendez parler un homme, cette musique de rien, qui n'a l'air de rien, mais qui dit tout, qui donne à voir. Ça passe par l'oreille, mais vous savez, Bernard de Clairvaux, le cistercien, disait « écoute, voir ». Quand on écoute Achebe, on voit le monde se dérouler sous nos yeux.
Il a fait des études dans un des collèges les plus connus. Et puis ensuite, il est bien sûr allé à l'université. ce qui était assez rare à son époque.
1953, après l'université, il part à Londres, travailler même pour la BBC.
L'élite intellectuelle de son époque s'exilait énormément. Déjà, ils étaient exilés au collège, parce qu'ils étudiaient une littérature étrangère. Les professeurs avaient un regard étranger sur le pays. Donc, ils se détachaient déjà. Et c'est une des choses que Chinua Achebe a dit, quand il parlait de l'anglais, beaucoup de gens lui ont reproché d'écrire en anglais. Et il disait, mais je n'ai pas à m'excuser, moi, c'est l'anglais que j'ai maîtrisé à l'école, et à l'époque, on n'étudiait pas l'ibo, et donc, pour lui, l'anglais est devenu sa langue. Bien sûr, c'était une langue qu'il a moulée, triturée, pour en faire une langue qui représente et qui parle ibo. Lui a intégré, et ça c'est surtout dans Tout s'effondre, mais pas dans tous ses romans. Il a donc intégré des mots et il a utilisé plusieurs systèmes d'intégration de l'ibo. D'abord la structure de la phrase, la musique de la phrase, l'équilibre, la façon dont la phrase se déroule. Ensuite, dans le vocabulaire, il a intégré des mots ibo que quelquefois il a expliqués. Par exemple, il peut dire « il était dans son hobby, sa maison d'accueil », mais quelquefois, il n'explique pas. Et puis, il peut y avoir différentes interprétations. On peut dire « bon, il savait qu'il allait publier ça à l'étranger, donc il essayait de se faire comprendre, mais en même temps, il voulait faire comprendre aux gens ce que c'était sa langue et ce qu'elle représentait. Ce n'est pas juste des mots, c'est une culture qu'il y a derrière. »
Gaston Poléfa, arrêtons-nous sur ce titre, Things Fall Apart. Le monde s'effondre, c'était la traduction de 1970. Tout s'effondre, c'est la traduction de 2013. Mais qu'est-ce qui s'effondre ?
Tous les modèles s'effondrent. Si je pouvais parodier Nietzsche, je dirais que c'est le crépuscule des idoles. C'est le crépuscule des modèles. Aucun modèle n'est exemplaire dans le monde. Aucun. Tout est à reprendre. L'enseignement d'Achebe, c'est « si tu veux voyager, sois comme ce nuage qui est chargé d'eau que doivent boire ceux qui vont rencontrer le nuage et qui n'ont pas la chance de voyager. Et donc, nous devons voyager avec ce que nous sommes et ne pas se diluer dans la rencontre avec autrui. Au contraire, enrichir l'autre, puisque cela enrichit encore plus ce que nous sommes. »
Qu'est-ce que vous avez découvert de la culture Ibo aussi en lisant Achebe?
J'ai découvert simplement toute l'Afrique à travers Achebe. C'est toute l'Afrique qui parle. C'est à la fois l'Afrique qui est riche des valeurs, c'est-à-dire ce à quoi on accorde du prix, mais cette Afrique qui n'a pas conscience de ses valeurs. L'Afrique qui va aller vers la modernité, mais qui oublie qu'on ne peut aller vers la modernité que si on a un réel bagage derrière soi, c'est-à-dire si on est assis sur la tradition. Or, nous avons cet écartèlement entre deux. Je fuis, je vais aller, mais en même temps ça me rattrape. Et c'est ce que je montre parfois dans mes romans, ce personnage à qui on donne un sac totémique, il a honte d'hériter de ce sac, mais il pense en être débarrassé, mais en fait tout ce qu'il fera jusque dans l'écriture, c'est encore le sac qu'il porte. Et c'est ce que nous apprenons de cet homme extraordinaire. Achebe.
Son œuvre est publié entre 1958, donc Tout s'effondre, et 1966. Donc Tout s'effondre, c'est 1958. C'est le premier volume d'une tétralogie, puisqu'ensuite il y a Le Malaise en 1960, La Flèche de Dieu en 1964 et Le Démagogue en 1966.
Mais après, il y en a eu d'autres.
Voilà, mais en fait, c'est quatre romans, trois recueils de nouvelles et un livre de poèmes. Et c'est tout. C'est très bref par rapport à d'autres écrivains qui ont...
Oui, mais il faut regarder ça dans la durée, parce qu'il faut tenir compte du fait qu'il y a eu 3 ans et demi de guerre. Mais il y a eu un trou, ça c'est absolument général. Entre 67 et 70, les Ibo n'ont rien publié. Ils étaient pris dans la guerre.
Alors arrêtons-nous sur la guerre.
Bon, si vous voulez.
Ancienne colonie britannique, le Nigeria est un des plus grands pays d'Afrique. En 1960, lors de l'indépendance, c'est le régime de la corruption qui s'instaura dans le pays.
Extrait de l'émission 5 colonnes à la une en 1968.
Une des trois grandes ethnies, celle des Ibo, réagit. Catholique, ayant assimilé le mieux la civilisation européenne, les Igbos s'emparent petit à petit de tous les postes, tant dans l'armée que dans l'administration et au gouvernement. Toujours est-il que début 1966, à Kano et dans d'autres villes du Nord, 30 000 d'entre eux sont brutalement massacrés en un véritable pogrom. Dès lors, tous les Igbos retournent dans leur pays natal, au sud-est du Nigeria, où ils sont 8 millions environ. En mai 1967, ils décident de former un État à part, le Biafra. Trois mois après, le gouvernement fédéral réagit, c'est la guerre, qui, en 10 mois, aura fait déjà plus de 100 000 morts et de 1 à 3 millions de réfugiés.
Achebe, lui, il était à Lagos, comme beaucoup de Biafrais.
Il travaillait pour la télévision et la radio nigériane.
Oui. Donc Achebe lui raconte, un de ses écrits, comment il était une fois un pays. Vous savez, c'est sa dernière publication qui n'a pas été traduite, There Was a Country, où il raconte son départ de Lagos, son départ précipité, où il ne voulait pas partir, mais finalement, il se sentait, sa femme était enceinte, je crois, et on lui a dit, mais tu vas y passer. Il y a des gens qui le cherchaient pour l'assassiner. Donc finalement, tous ces gens sont rentrés à vitesse grand V au village. Tous les gens revenaient du nord avec un œil au lieu de deux, un bras au lieu de deux. Quand ils revenaient entiers, il y en a beaucoup qui revenaient morts. On a ramené les corps. C'était vraiment terrible. Il y a eu à peu près 3 millions de morts. L'histoire, tout au long des différents gouvernements, depuis la guerre, depuis 1970, a été étouffée dans les programmes scolaires. Donc les jeunes de la génération de mes enfants, qui sont nigérians, qui ont grandi au moins à l'école primaire là-bas, n'ont jamais entendu parler de la guerre, ils ne savent pas. Parce que la guerre a été complètement effacée. Et par contre, les romanciers, eux, ils écrivent. Chimamanda Adichie décrit ça très bien. Hein, et elle peut le faire parce qu'elle a écrit son livre très longtemps après.
Ses deux grands-parents sont morts.
Oui.
Pendant la guerre de Biafra. Et l'autre moitié du soleil, le titre de son roman très connu, renvoie au demi-soleil.
Tout à fait.
Qui était inscrit sur le drapeau de la jeune république du Biafra, composé de trois bandes horizontales, rouge, noir, verte. Mm. Donc ce titre du roman de Chimamanda renvoie directement au drapeau biafrais.
Oui. Elle est née après. Elle est née en 1977.
Donc 7 ans après la fin de la guerre du Biafra.
7 ans après la guerre, donc elle n'a pas vu la guerre, elle n'a peut-être pas vu... Moi, je suis arrivée en 72, donc j'ai encore vu les dégâts. J'ai vu les carcasses de voitures calcinées, j'ai vu l'effet des bombardements, etc. Et j'ai vu aussi les gens, les réactions des gens à l'époque. Mais elle n'a pas vu ça, mais bien sûr, comme elle le dit, elle a interrogé sa famille. Et avec ça pose des problèmes, c'est très difficile parce que ces gens-là ne veulent pas parler de ça.
Chinua Achebe est devenu aussi quand même l'ambassadeur de la cause biafraise. Donc, parce qu'il rentre au village, mais après il repart encore.
Oui, il voyageait, pas seulement aux États-Unis, il a voyagé dans différents pays. Et partout, il expliquait ce qui se passait au Biafra. En 82, il a publié à Kaweta, qui est un recueil de poèmes, qu'il a ensuite traduit en anglais, mais en Igbo. Et aussi, c'était de la poésie, alors que normalement, il écrivait des romans ou des essais. Et quand on lui a posé la question, comment ça se fait, il a dit, pour moi, la guerre, ça ne pouvait pas s'écrire autrement qu'en poésie.
Il arrive rapidement l'oiseau de la mort, sorti des forêts maléfiques de la technologie soviétique. L'homme qui traverse la rue pour aller dire bonjour à son ami marche beaucoup trop lentement. Et son ami, maintenant coupé en deux, a d'autres soucis que de serrer une main amicale à l'heure de midi.
Le raid aérien. Simplicité. Nudité. Il n'y a pas de gras. On est à l'essentiel. Tout y est. La mort, la vie, la forêt, la terre, les valeurs, quelques lignes, c'est achevé. C'est magnifique, ça. C'est aussi l'enseignement d'Achebe. C'est-à-dire que l'homme n'est homme que parce qu'il fait partie de la nature, qu'il ne peut pas oublier. Le professeur de philosophie qui enseigne Descartes, je pense donc je suis, le « je pense » est cette substance qui me différencie de tous les animaux que Descartes appelle d'ailleurs des machines. Ce qui est important chez moi, c'est que je m'élève au-dessus de tous les autres êtres. Chez HEB, non. Il faut se rabaisser. C'est ce que j'appelle chez HEB l'humilité, retrouver l'humus, ce qui nous a façonnés. Ce qui est fait que je suis ce que je suis, c'est que j'ai appris des gestes simples que vous retrouvez chez HEB. Regardez, écoutez, touchez, sentir tout ce qu'aujourd'hui nous n'arrivons plus à faire parce que le monde va trop vite et l'œuvre d'HEB est une œuvre du ralentissement ou de l'alentissement.
Gaston Poléfa, tout s'effondre ou le monde s'effondre a été traduit dans 30 langues et vendu à 10 millions d'exemplaires. Est-ce que vous comprenez le retentissement de ce roman, qui en fait est la pierre angulaire de toute son œuvre, même si on a du mal à avoir accès au reste, écrit en 58 et qui continue à être lu, traduit aujourd'hui, mais aux quatre coins du monde?
Il y a à la fois ce que nous appelions tout à l'heure la simplicité. Et là, on va la reprendre au sens plus fort du mot, il n'y a qu'un pli chez HEB. Il ne faut pas chercher ailleurs. C'est la simplicité même, et on peut aller jusqu'à dire c'est la nudité. Et donc, lorsqu'on a lu HEB, on ne peut que le transmettre à d'autres lecteurs. Partager HEB. C'est en cela qu'il a fait 10 millions d'exemplaires. En général, le roman qui est difficile à lire, confidentiel, on prend trop de temps à le lire, on le garde, on pose, on reprend. HEB, on le dévore et on ne veut pas le garder pour soi. Avec soi, il faut passer HEB. On se fait passeur. Et là, il nous remet vraiment à la place de l'humanité. On n'est que des ponts vers d'autres personnages. On ne se limite pas à soi.
Le grand écrivain américain James Baldwin, en 1980, dit ceci. Lorsque j'ai lu Tout s'effondre à Paris, la tribu Igbo au Nigeria, une tribu que je n'avais jamais vue, ou une société dont les règles étaient pour moi un mystère, j'y ai reconnu tout le monde. C'était un livre sur mon père. Comment il était arrivé là, je ne sais rien, mais c'était bien lui. L'écrivain noir américain lit HEB, le Nigérian, et s'y retrouve.
Oui.
Donc, ce n'est pas seulement le contact du monde Igbo traditionnel et des missionnaires.
Non,
c'est
non.
Autre chose qui oui. se passe dans ce livre.
C'est justement parce qu'il a une langue très simple. Et donc, ça a touché des gens. Je me souviens quand j'étais à Nsukka. Moi, j'ai passé 25 ans à l'université de Nsukka, l'université du Nigeria. On a appelé comme ça parce que c'était la première construite à l'indépendance.
Là où était Chinua Achebe.
Et Achebe était au département d'anglais. Moi, j'étais au département de langue. Autre que l'anglais, de langues étrangères. Donc, on se voyait, hein. Mais bien qu'il ait passé quand même pas mal de temps aux États-Unis. Et donc, il y avait des étudiants japonais, des gens de partout qui venaient pour le rencontrer, pour voir cet homme. On a vu aussi l'influence énorme qu'il avait, justement, je pense, à cause du fait que sa langue était très pratique, très... C'était comme une conversation.
Qui lisait dans sa prison de Robben Island Chinua Achebe et qu'est-ce qu'il en a dit?
C'est Nelson Mandela. Vous voyez, Achebe, forcément, ses écrits ont impacté les grandes figures de l'Afrique. C'est l'éclaireur, l'éveilleur de conscience.
Sa vie, on peut la résumer en trois lignes. Il naît en 1930 au Nigeria. Il meurt en 2013 aux États-Unis. Il se marie en 1961, il a quatre enfants. 1990, il a un accident grave, il devient tétraplégique. Et on pourrait dire, cette vie, où il part en Angleterre, il part aux États-Unis, disparaît complètement derrière son œuvre. Et sa grande œuvre, tout s'effondre. C'est un paradoxe d'un homme aussi connu en terre anglophone, très peu connu en terre francophone, voire même en Europe, que d'avoir une vie aussi ténue qui tient sur quatre lignes.
Vous savez, on a eu beaucoup d'auteurs qui ont été comme HEB, Musil. Musil, c'est un livre. HEB a écrit beaucoup de textes qui ne sont pas traduits. Même s'ils étaient traduits, Tout s'effondre représente toute l'œuvre de HEB. Et donc, je pense réellement que sa vie, on la redécouvre dans l'œuvre. Parce que c'est sa pensée, c'est sa vision du monde. Ma vie importe peu, ce qui compte, c'est ce que je dis et ce que je fais dans mon œuvre.
Dans son recueil « Éducation d'un enfant protégé par la couronne », Chinua Achebe porte un regard humble sur ses héritiers.
La nouvelle littérature africaine, comme l'ancienne, a conscience de la possibilité qui lui est offerte de célébrer l'humanité sur notre continent. Elle est consciente du fait que notre univers contemporain est de plus en plus intégré aux autres univers. Car, comme le dit un Français, un personnage de l'aventure ambiguë, de cher ami Doukan, nous n'avons pas eu le même passé, vous et nous. Mais nous aurons le même avenir, rigoureusement. L'ère des destinées singulières est révolue.
Aujourd'hui, Célestin Magoudi, quand vous enseignez vous-même Chinua Achebe à vos étudiants, c'est quoi la réaction de ces jeunes étudiants?
Disons que ils sont contents de voir la représentation de l'Afrique et de l'Africain. Les aspects positifs et négatifs, parce que dans une société, il y a un peu de tout. Quand vous prenez Achebe, il n'a pas pris parti, il n'a pas présenté l'image tronquée de l'Afrique. Nos étudiants, quand nous leur enseignons Sinful and Part, ils se retrouvent. Ça, c'est la culture africaine. Quand nous prenons la mauvaise gouvernance en Afrique, et vous lisez Man of the People, le démagogue, avec le personnage Chief Nanga, un instituteur catapulté et ministre de la culture, voyez, avec l'enrichissement illicite qu'il a orchestré, on se retrouve un peu, disons, au niveau de certains pays africains où les dirigeants conduisent nos États de façon pas orthodoxe. In the loud arounding of my world, there's a secret place where I find myself. Can I find you, Biafra? The noise of hordes of thirsty Nigerians, of hustlers, of mothers confront me as I walk past Lagos. In prayer contemplation like a ghost, I feel the sorrow of a man. Still I don't know how much pain it takes, Niger. I walk the island, I walk the mainland. I see diversity, I smell capacity, but still the suffering. Why?
Le problème du Nigeria est purement et simplement un manque de gouvernance. Il n'y a rien de fondamentalement mauvais dans le caractère nigérian. Il n'y a rien de mauvais dans la terre nigériane, ni dans le climat, ni dans l'eau ou l'air ou quoi que ce soit d'autre. Le problème du Nigeria vient du manque de volonté ou de l'incapacité de ses dirigeants à se montrer à la hauteur de la responsabilité, du défi de l'exemple individuel, qui est la marque d'une véritable gouvernance.
Pour moi, le Nigeria, c'est un ado.
Un adolescent.
Un adolescent mal dans sa peau, rebelle, qui voudrait sortir de... qui a des tas de rêves et de buts qu'il n'atteint pas. Et aussi, le fait, c'est que, en fait, c'est pas un seul ado, c'est un gang. Avec des gens, des jeunes, qui ont tous une énergie énorme, mais qui n'arrivent jamais à se mettre d'accord sur rien.
L'hymne national actuel invoque l'image du père. Mais je me suis dit que pour moi, le Nigeria n'était ni mère ni père. C'est un enfant, doué, incroyablement riche de talent et totalement incontrôlable. Le fait de naître nigérian est incroyablement excitant et vous plonge dans un état de frustration abyssale. J'ai dit quelque part que je voulais, pour ma prochaine réincarnation, être à nouveau nigérian. Mais j'ai aussi, dans un livre intitulé « The Trouble with Nigeria », écrit, avec une certaine colère, moqué la publicité pour les voyages au Nigeria, en disant que seul un touriste souffrant d'un goût pervers pour l'autoflagellation choisirait ce pays pour y passer des vacances.
On voit dans l'œuvre d'Achebe deux pôles. Le pôle village, où il se montre incroyablement profond. Achebe a vraiment vu et décrit cette culture de l'intérieur.
Donc il y a le pôle village et le pôle ville.
Et le pôle village d'un côté et le pôle ville, non. Je dirais que l'autre pôle, c'est le pôle politique, où il y a les essais. Et il est très, très critique sur les dirigeants. Pour lui, le problème du Nigeria, c'est un problème politique et de gouvernance. Et il a toujours dit et redit, et c'est intéressant de... C'est une autre chose que personne n'a étudiée, à mon avis, encore. C'est la relation entre les romans d'Achebe ou la littérature nigériane et le cinéma nigérien, où on voit que le nigérian du Sud, hein, Nollywood, ça représente le Sud, très critique également vis-à-vis de la gouvernance.
Qui sont les héritiers aujourd'hui de Chinua Achebe, selon vous ?
Vous avez la jeune génération, notamment Chimamanda Ngozi Adichie. Donc, Adichie se retrouve à travers Achebe. Et Achebe est comme son père spirituel.
Je suis spécialement épatée par le bouillonnement nigérian. Surtout le Nigeria du Sud, c'est-à-dire les Yoruba et les Igbo.
Marie Dariosek.
Qui ont une liberté de... Au nord, ils sont plus religieux, souvent, mais au sud, c'est vraiment le fond du golfe de Guinée. Il y a toute cette influence. Ils reçoivent toute la planète, quoi. Et ils ne s'adressent pas aux Blancs, jamais. Ils s'adressent au monde. Et ils s'attachent aussi, d'ailleurs, à vrai dire, d'abord au Nigeria. C'est le bazar, hein, l'industrie, l'économie nigériane est absolument corrompue. Il n'y a pas de circuit de distribution des livres, enfin, c'est une catastrophe. Mais il y a quand même des livres qui circulent, imprimés sur le papier tel qu'il se trouve. J'en ai eu plein dans les mains. Chimamanda Ngozi Adichie, elle a commencé à être éditée comme ça. Bi Bandele, un copain à moi, a commencé à être édité comme ça. Et il y a une petite industrie, très pirate souvent, mais de littérature nigériane qui s'adresse aux Nigérians. Et puis ensuite, les très bons, arrivent à passer. Comme ils écrivent en anglais, ce qui est une chance, ils arrivent à trouver un éditeur américain la plupart du temps, ou anglais, dans la fameuse collection où a été publié d'ailleurs Chinua Achebe.
Ils finissent souvent comme professeurs de littérature dans des universités américaines de renom.
Oui, absolument. Achebe était dans le Massachusetts. La plupart de ces écrivains nigériens sont effectivement embauchés par ces grandes facs américaines qui ne s'y trompent pas. Et de cette façon-là peuvent essaimer. Il faut quand même dire que le trou dans la bibliothèque, il demeure en France, parce que malgré les efforts d'éditeurs comme Actes Sud pour Achebe ou Zulma pour d'autres grands auteurs africains, les ventes restent extrêmement faibles. Et je crois que le projet d'Actes Sud avait été de tout traduire, parce qu'on n'a pas tout Achebe, hein. Il manque énormément de nouvelles, de romans, d'essais, mais économiquement, ça devient du pur sponsoring, quoi.
Alors j'ai relevé aussi un autre héritier peut-être moins connu que Chimamanda Adichie, c'est Chigozie Obioma, qui a publié en 2015 un roman qui s'appelle Les Pêcheurs, et il cite le poème de Yeats qui est en préambule du livre de 1958. Il cite même le propre livre d'Achebe dans son livre en mettant en scène un lecteur qui lit Tout s'effondre, et je voudrais vous faire écouter son propre regard sur l'arrivée des sauterelles. L'arrivée des sauterelles, on l'a entendu en 1958 chez Achebe. Je vous propose d'écouter l'arrivée des sauterelles plus de 50 ans plus tard chez Chigozie Obioma.
Les sauterelles étaient des présages. Elles envahissaient à cure comme presque tout le sud du Nigeria au commencement de la saison des pluies. Ces insectes ailés, aussi minuscules que les mouches brunes qu'on utilisait comme appât, surgissaient du sol par des trous poreux dans un grouillement soudain et convergeaient vers la moindre lumière qui les attirait comme un aimant. Les habitants se réjouissaient souvent de leur arrivée, car la pluie guérissait la terre, suppliciée par la saison sèche, son soleil sans pitié et l'armatan complice. Les enfants allumaient des ampoules ou des lanternes et plaçaient des récipients d'eau à proximité pour y pousser les sauterelles et les noyer une fois dépouillées de leurs ailes. Les gens se rassemblaient pour un festin de sauterelles grillées et célébraient l'imminence de la pluie. Mais quand la pluie tombait, généralement dès le lendemain de l'invasion, elle s'accompagnait d'un violent orage qui arrachait les toits, détruisait les maisons, noyait les hommes en grand nombre et transformait des villes entières en fleuves inconnus. D'heureux présages, les sauterelles devenaient les messagères du mal. Tel fut le sort qui, une semaine après la blessure de Boja, frappa les habitants du village, le Nigeria tout entier, et notre famille.
Les sauterelles, C'était très important dans la vie traditionnelle, au point que on notait, par exemple, pour savoir à quelle époque les enfants étaient nés, quelle année, etc. On disait, bon, c'était l'année des sauterelles. Donc, c'est quelque chose d'important, mais en même temps, ça décrit, bien sûr, une invasion. Ça décrit aussi la violence de ce texte, la violence des saisons. La façon de décrire est très différente d'autres... Bon, par exemple, comment on écrirait en français, je dirais. Et donc, probablement, ce qui lie Achebe et Obioma, qui sont tous les deux Igbo, c'est cette langue et sa façon de regarder les choses.
Gaston Paul-Effa, qu'est-ce qui reste en vous en 2018 quand vous relisez Achebe? Est-ce que c'est un texte du passé ou c'est toujours un texte du présent?
C'est un viatique qui doit accompagner tout ce que je fais. C'est un rappel qui me dit « n'oublie pas ». N'oublie pas la tradition. Quand tout aura disparu, il restera un repère, un noyau. Et c'est là qu'on va puiser l'essence de ce concert.
Permettez-moi de finir avec une charmante petite coda. L'Afrique a foi dans les gens, dans la coopération entre les gens. Si la formule philosophique de Descartes « je pense donc je suis » représente l'idéal individualiste européen, ce dicton bantou représente une aspiration commune africaine. Un humain est humain à cause des autres humains. Notre humanité dépend de l'humanité de nos semblables. Aucun individu, aucun groupe ne peut être humain tout seul. Nous nous élevons ensemble au-dessus de l'animal ou pas du tout. Quand nous aurons appris cette leçon, même s'il est tard, nous aurons réellement progressé d'un millier d'années. Come, let us be truthful, surrender our pride, admit the stains on our world, our chagrins, our hangings, we seek, we find, we take. We kill, our love is hate, our smiles are fake.
Chinois Achebe, éclaireur de la littérature africaine, avec la romancière Marie Dariosek, la spécialiste du Nigeria Françoise Ukochukwu, l'universitaire Vivien Yombe, Célestin Bagouidi, professeur de littérature au Bénin, et Gaston Paul-Effa, romancier et professeur de philosophie. Les textes de Chinois Achebe tirés du roman Tout s'effondre, du recueil Éducation d'un enfant protégé par la couronne, de l'essai Le problème avec le Nigeria et des Collective Poems étaient dits par Jean-Michel Martial. Une vie, une œuvre, coordination Christine Bernard, assistée de Pascaline Bonnet. Documentation musicale Virginie Gresset, prise de son Alain Joubert, mixage Éric Boisset, réalisation Jean-Philippe Navarre, une émission proposée par Michel Pomared.
Vous pouvez podcaster cette émission et retrouver la collection Une vie, une œuvre sur la page du site sur franceculture.fr, une page préparée par Pascaline Bonnet avec l'aide de Nemo Camus. Tout de suite, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque dimanche à 19h, Soft Power. Louis Fez, Frédéric Martel.
Vous êtes en France, 32 millions à utiliser Google chaque jour et presque aussi nombreux sur Facebook, Instagram ou Twitter. Soft Power vous aide à décrypter cette transition numérique et à comprendre le siècle digital.
Qui sont les acteurs de cette transition? Comment les réguler? Quel rôle pour les États? Mais aussi comment protéger ses données, sa vie privée et mieux organiser le partage de la valeur?
On en parle dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture.
Soft Power, tous les dimanches à 19h et sur franceculture.fr.
France Culture, Étienne Klein.